franceinter.fr. Le 6-7 sur France Inter.
Bienvenue dans le 6-7 de France Inter. À 6h20, mon invité sera Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française pour le développement. Au Sahel, Emmanuel Macron souhaite compléter l'action militaire contre les djihadistes par une véritable politique de développement. Nous verrons cela avec Rémy Rioux. Juste avant 7h, l'histoire politique de Jenny Calimi. Mélenchon derrière le tribun, nous verrons qu'il y a le stratège. Et puis les histoires du monde, nous partirons en Allemagne. Et on terminera en musique avec Magic Elvis, le feuilleton des radios francophones publiques tout cet été sur France Inter. Mais tout de suite, le reportage grand angle, on part aux États-Unis.
France Inter, le 6-7.
Avec l'escalade de Donald Trump sur Twitter qui se poursuit, hier, le président américain a publié une vidéo totalement hallucinante dans laquelle il fait mine près d'un ring de catch de passer à tabac un homme dont le visage est remplacé par le logo de CNN. Une vidéo qui était publiée au moment même où des milliers de personnes protestaient dans une cinquantaine de villes américaines pour dire non à Trump et demander son départ. Philippe Randé était avec eux à Philadelphie.
Jason tente de chanter et pourtant la vidéo qu'il est en train de découvrir sur son téléphone le laisse sans voix. 28 secondes où le 45e président des États-Unis se met en scène dans une bagarre avec CNN.
C'est une attaque contre la démocratie. L'un des fondements de notre pays, c'est une presse libre. Quand un président partage une vidéo comme celle-là qui incite à la violence, c'est un signal qu'il s'attaque à la liberté d'expression. C'est un égoïste paranoïaque et non seulement il ne comprend pas notre constitution, mais surtout il s'en fiche.
Wendy, malgré les 35 degrés, est venu manifester avec un bonnet rose en soutien aux femmes et notamment à la présentatrice de MSNBC insultée par Donald Trump il y a quelques jours. Wendy, qui se dit démocrate depuis toujours, mais qui ressent pour la première fois une vraie honte d'être américaine.
On a été les leaders du monde, mais on ne l'est plus. La chef du monde libre maintenant, c'est Angela Merkel. Il ne peut pas être stable et rassurant, car à chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit le contraire après sur Twitter ou ailleurs. On a connu des présidents républicains avec qui on était en désaccord politique. Mais Reagan ou Bush n'ont jamais parlé d'attraper les femmes par leur sexe. Ils n'auraient jamais manqué de respect à ce point aux femmes. Ce que Trump fait, c'est dégoûtant et gênant.
Un peu plus loin, Stéphanie, elle le dit en souriant, si je devais commenter chaque tweet idiot de mon président, il faudrait que je pose une année sabbatique. Stéphanie qui n'imagine pas une procédure de destitution à court terme, mais qui craint que chaque attaque lancée par Donald Trump soit une bombe à fragmentation.
Il est très manipulateur et moi j'ai très peur que notre nation se divise vraiment violemment. Trump veut tuer les médias et les remplacer en communiquant lui-même sa propre vision via les réseaux sociaux. Le problème de ces réseaux sociaux, c'est que les gens ne gardent des connexions qu'avec ceux avec qui ils sont d'accord. Et ça crée une bulle et ça limite le dialogue plutôt que l'encourager.
Quelques secondes plus tard, un partisan de Donald Trump débarque au milieu de la foule. S'en suivent de longues minutes d'insultes. Stéphanie baisse les yeux avant de chuchoter. J'espère qu'un jour tout ça ne va pas déraper.
C'était le Grand Angle, le reportage de Philippe Randé à Philadelphie. Le journal des sports.
France Inter. Le 6-7.
Bonjour Jean-Pierre Blémaux.
Bonjour.
Jean-Pierre, victoire allemande hier en Belgique au terme de la deuxième étape du Tour de France.
Oui, Marcel Kittel s'est imposé au sprint devant le Français Arnaud Démare et son compatriote allemand André Greipel. Le Gallois Geraint Thomas reste en jaune. Dixième victoire sur le Tour pour Kittel qui enfile le maillot vert de meilleur sprinter. Le maillot jaune, lui, n'est qu'à 6 secondes, si près, si loin, Marcel Kittel.
En tant qu'équipe, on est là pour les victoires d'étape, c'est l'objectif principal. Oui, le maillot jaune n'est pas loin, 6 secondes, mais ça me paraît inatteignable pour moi. Aujourd'hui, ça va être un final difficile, je ne fais clairement pas partie des favoris et il y a d'autres coureurs dans mon équipe qui auront plus leur chance à jouer que moi. On s'en tiendra au plan pour remporter une nouvelle victoire.
Marcel Kittel avec Xavier Monferrand.
Une deuxième étape qui a été marquée par une très lourde chute à 30 km de l'arrivée.
Chute à l'avant du peloton impliquant plusieurs favoris, dont le tenant du titre, le Britannique Chris Froome, le Français Romain Bardet ou encore l'Australien Richie Porte. Ce n'est pas la première depuis le début de la compétition, Fanny Lechevestrier.
On a encore en tête l'image d'Alejandro Valverde rebondissant sur les barrières de sécurité samedi. Hier, ce sont encore une trentaine de coureurs qui sont tombés à terre, victimes d'un terre-plein central et de la pluie battante. Une chute qui a bien failli faire de nouveaux dégâts au classement général, impliquant les favoris Chris Froome et Romain Bardet. Vincent Lavenu, le directeur sportif du Français.
Romain est touché au dos, c'est les aménagements routiers, la pluie qui a fait que ça générait cette chute. Le peloton commençait à être en stress parce qu'on sentait que l'allure s'accélérait pour essayer de revenir sur les hommes de tête. Et finalement, bon, ouais, ce n'est pas passé, hein, on se doutait. On sentait bien que ça allait au tas, et c'est allé au tas.
Un peloton nerveux lors des premiers jours, comme d'habitude, mais que les conditions météo rend encore un peu plus crispées qu'à l'accoutumée, au milieu, en plus, hier, d'une foule de spectateurs. Et si les nouvelles de Bardet sont rassurantes, pour d'autres, les bobos sont déjà très sérieux. Michael Delage était en pleurs hier soir, touché au genou. Axel Daumont a, lui, dû filer à l'hôpital. D'autres encore ont terminé seuls, avec leur douleur, à plus de 10 minutes du peloton. Avant même la troisième étape, le Tour compte déjà 3 abandons. L'an dernier, il avait fallu attendre la 8e étape pour voir les premières défections. À Liège, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Et puis il y a cette polémique naissante. Les équipes FDJ et BMC ont porté réclamation car elles reprochent aux Britanniques de la Sky, l'équipe de Chris Froome, d'avoir utilisé des combinaisons aérodynamiques interdites lors du contre-la-montre de samedi. Aujourd'hui, les coureurs quittent la Belgique, passent par le Luxembourg. Ils arrivent en France après 212 500 km entre Verviers et Longwy, c'est en Meurthe-et-Moselle.
Le tennis, ça démarre aujourd'hui à Wimbledon.
Roger Federer, qui a fait l'impasse sur Roland-Garros, vise un 8e titre pour battre le record absolu de succès sur le gazon de Londres. Le Suisse est en forme. Il vient d'emporter le tournoi de Halle en Allemagne et se présente dans les meilleures conditions pour son tournoi préféré. Il l'a dit à Guillaume Bat.
Je me suis entraîné sur le 3 avec Lucas Pouille la première fois. Je me suis tout de suite très bien senti. Et forcément, je me réjouis énormément que je suis en bonne santé et que Wimbledon est là. Et que j'ai aussi bien joué à Halle, ça m'a permis en fait de prendre cette semaine plus comme une semaine de récupération, m'habituer, surtout pas encore se blesser, surtout pas encore se fatiguer avant le grand départ le mardi.
Alors à Wimbledon, dès aujourd'hui, l'Écossais Andy Murray, tenant du titre, va débuter sur le central à 14h. 7 Français sont également sur le court. Tsonga, Herbert, Père, Bento et Pouille chez les garçons. Cornet, Garcia pour les filles. Et tout cela dès midi et demi, mais pas sur le central. En voile, le dénouement sur The Bridge est attendu en fin de journée. Le trimaran de François Gabart devrait être le premier à rejoindre New York après l'arrivée du Queen Mary samedi. Et puis l'un des équipiers de Thomas Coville, Thierry Brien, a fait une lourde chute en perdant brièvement connaissance, mais aucune évacuation n'est prévue malgré un traumatisme crânien. Puis un petit mot de football, Stéphane, pour vous dire que la Coupe des Confédérations revient à l'Allemagne, encore une fois, qui a battu le Chili 1-0. Et le Parisien Julien Draxler a été élu meilleur joueur de la compétition.
Et selon la formule consacrée, à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Merci Jean-Pierre Blimaud, c'était le Journal des Sports. Et la une de la presse ce matin, vous n'y échapperez pas, ou presque pas. Emmanuel Macron et le Congrès de Versailles font presque toutes les unes de vos quotidiens, à commencer par Libération, qui caricature à sa première page le président de la République dessiné en gigantesque Jupiter, référence à la présidence jupitérienne qu'il souhaite incarner. Un titre ironique, Manupiter à Versailles, premier acte d'une présidence sans partage. À Versailles, Emmanuel Macron couronne le tout, poursuit Libération, tout à sa volonté d'affirmer sa puissance. Le président bouscule les usages avec cette intervention devant les parlementaires. Ceci la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Le Figaro, de son côté, titre plus sobrement « Macron, le rendez-vous de Versailles, un congrès avant de passer à l'action ». Le Figaro rappelle quand même que, à droite comme à gauche, certains l'accusent de se comporter en monarque républicain, d'affaiblir le Parlement. Certains députés ont donc décidé de le boycotter, de boycotter ce discours du trône, affiche l'Humanité. Autant de critiques balayées par les proches du président, il s'agit, explique-t-il, d'investir surtout pleinement la fonction présidentielle. Chacun se fera donc sa propre opinion. Autre sujet à la une ce matin, cette menace de l'Italie de fermer ses ports face à l'afflux de migrants. Les Italiens réclament l'aide d'urgence de leurs voisins européens, mais ils posent aussi une question que l'on retrouve à la une de La Croix. Migrants, quel rôle pour les ONG? Les associations qui secourent les migrants sont en effet accusées de collusion avec les passeurs. Les Italiens soutiennent donc que les pavillons des bateaux des ONG devraient être ceux des pays de débarquement des migrants, à savoir la France, l'Espagne et l'Allemagne. Hier soir, les ministres de l'Intérieur italiens, français et allemands se sont rencontrés à Paris pour définir une approche coordonnée. On en saura un peu plus ce matin sur les décisions qui ont été prises.
France Inter, Stéphane Leneuf, le 6-7.
Mon invité ce matin est Rémy Rioux. Bonjour Rémy Rioux.
Bonjour.
Directeur général de l'Agence française de développement. Vous débarquez du Mali, on peut le dire. Vous étiez dans la nuit, dans l'avion avec Emmanuel Macron pour ce déplacement.
Oui, absolument. On vient d'arriver cette nuit là.
Alors, ma première question, avec parallèlement à la création donc de cette force militaire commune pour lutter contre les djihadistes, en mai dernier, Emmanuel Macron voulait appuyer aussi, il souhaite appuyer aussi compléter cette action militaire par une véritable stratégie d'aide au développement. Lutter contre les djihadistes avec l'aide au développement, comment ça peut fonctionner ?
Alors oui, le président s'est rendu deux fois au Mali déjà en quelques semaines, puisqu'il était, j'étais avec lui le 19 mai à Gao voir nos forces, et puis il a passé dans un week-end chargé toute la journée d'hier à Bamako avec les cinq chefs d'État du G5 Sahel, et il a cherché vraiment à impulser, je crois, une nouvelle dynamique, parce que il n'y a pas de sécurité sans développement, et il n'y a pas de développement possible sans sécurité. Donc deux annonces fortes, une annonce bien sûr sur le volet sécurité, avec cette force conjointe du Sahel qui a été lancée hier, qui doit maintenant prendre sa place dans le dispositif de sécurité. Et puis, c'est pour ça que j'étais là-bas, un volet développement beaucoup plus fort, boosté, parce qu'il faut absolument apporter des solutions aux populations dans cette zone.
Ces solutions, quelles sont-elles ? Quels sont les projets concrets que l'on peut apporter ?
Alors, il y a eu deux annonces hier. La première, c'est le président a lancé une initiative française, dotée de 200 millions d'euros sur les cinq prochaines années. Alors nous, à l'AFD, on l'appelle l'initiative Tiwara. Tiwara, c'est, vous savez, c'est cette petite antilope stylisée qu'on trouve partout dans le Sahel. Et dans notre esprit, c'est un petit peu ce que protège Barkhane. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on a une initiative de sécurité qui s'appelle Barkhane. Il faut qu'on ait maintenant, à l'avenir, une initiative de développement qui a un nom qui lui répond. On le fera ailleurs. Donc avec ça, bien sûr, on va financer de l'éducation, de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, de la gouvernance. Et puis la deuxième chose qu'a annoncé le président, c'est qu'il a lancé un appel à ce qu'il a appelé une alliance pour le Sahel. Donc l'idée, c'est que cette contribution française, elle est rejointe par d'autres forces, d'autres acteurs, les grands bailleurs de fonds, donc en premier lieu l'Allemagne, mais aussi la Banque mondiale, la Banque africaine, l'Union européenne, le PNUD, voilà, tous ceux qui ont un intérêt très particulier, parce que c'est si proche de nous, à ce que le Sahel se stabilise et se développe.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui de manière urgente pour ces pays du Sahel ?
Alors, vous savez, il y a un phénomène démographique très puissant dans le Sahel, donc il faut bien sûr prendre en compte cette dimension qui vient bousculer les écoles, les villes. Donc il faut un effort très particulier dans le domaine de l'éducation, et puis il faut apporter de l'énergie propre. Donc on a beaucoup de projets dans la zone de photovoltaïque, d'hydraulique, pour amener cette solution aux populations.
Certains demandent en fait que l'on conditionne toutes ces aides à une régulation de la politique migratoire beaucoup plus sévère.
Alors c'est une dimension, hein, bien sûr, il y a une bombe démographique un peu dans le Sahel.
Ça fait partie en quelque sorte du deal.
Ce qui est important, c'est que les mouvements de population puissent se dérouler dans leur région naturelle. Les Sahéliens, vous savez, en fait, ils ne veulent pas forcément venir en France. Les Sahéliens, ils veulent rester. Souvent, ils vont vers le sud, en fait, vers la Côte d'Ivoire, vers le Nigeria. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions de développement en Afrique de l'Ouest pour fixer les populations là où elles souhaitent vivre.
Alors, ces aides, quelle forme vont-elles prendre ? Est-ce que ça va prendre la forme de dons, de prêts ? Parce que beaucoup d'ONG réclament,
oui, absolument,
en fait,
donc
beaucoup plus de dons.
C'est une initiative additionnelle, spécifique, par rapport à ce que l'Agence française de développement fait déjà. On a engagé à peu près 1,5 milliard sur les 5 dernières années dans les 5 pays du G5 Sahel. Là, le président nous a apporté un instrument nouveau. Donc, c'est 200 millions d'euros de dons, pour répondre à votre question, additionnel par rapport à notre programme de travail habituel. Et c'est vraiment pour avoir les moyens d'intervenir dans les régions du Nord, dans les régions frontalières, vous savez, où beaucoup de choses se passent et où beaucoup de trafic aussi, où il faut remettre des logiques de développement plus positives. Et tout ça avec des circuits courts, en faisant mieux et de façon très coordonnée avec les autres acteurs.
Quels sont les autres projets concrets qui vont intervenir dans les années à venir ? Vous avez parlé effectivement de l'énergie, de l'électricité apportée.
Alors on a signé un gros projet, alors qui n'est pas sur cette enveloppe là, mais on a signé un gros projet avec le ministre des Finances, le docteur Boubou Cissé, hier au Mali. On va doubler la ligne électrique entre le grand barrage de Manantali, qui est à peu près à 300 km de Bamako, et Bamako, donc pour amener beaucoup plus d'énergie dans cette ville. Vous savez, les villes du Sahel, on a l'impression que c'est une zone entièrement rurale, mais les villes sont aussi, 40% de la population maintenant vit dans les villes, sont en train d'exploser, donc il faut absolument leur amener de l'énergie. Donc on a signé pour 106 millions d'euros hier un grand projet d'infrastructure, pour vous donner un exemple de ce qu'on fait, mais on fait aussi des toutes petites choses. À Kidal, vous voyez, dans les zones qui ont été occupées par les djihadistes, là on remet un marché, on remet de l'eau, on restaure des centres de santé pour montrer qu'il y a des dividendes de la paix, pour montrer que les services publics reviennent.
Est-ce que finalement il ne faut pas aussi créer de l'emploi, essayer de créer de l'emploi pour peut-être fixer effectivement les jeunes, cette population qui veut immigrer, qui veut
migrer. Oui, vous avez parfaitement raison, hein, l'Afrique en général et en particulier l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une explosion démographique et donc il faut créer des emplois à un rythme qu'aucune région du monde, même l'Europe, a connu dans son histoire. Donc pour un emploi, il faut en créer 5, 6, 7 maintenant dans ces zones. Donc une très grande priorité, et ça Emmanuel Macron le porte, au secteur privé.
Merci Rémi Rioux, invité ce matin de France Inter, directeur général de l'Agence française de développement.
Il y a un spectacle qui amuse beaucoup Vincent au péage des autoroutes. Ce sont les gens qui se tortillent pour chercher leur ticket. Ah, c'est pas facile quand on est assis avec sa ceinture de sécurité. Il y a aussi les gens qui se tortillent pour chercher leur carte bancaire avant de se rendre compte qu'elle est dans leur veste, qu'ils ont mis dans leur coffre pour ne pas qu'elle se froisse. Et là, vous vous dites, il ne doit pas avoir l'air malin, Vincent, quand il cherche son badge télépéage Vinci Autoroute. Eh bien voilà, ça ne risque pas d'arriver parce que le badge Vinci Autoroute, il est collé sur le pare-brise. Et Vincent, il a un pare-brise.
Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client ou sur vinciautoroute.com.
Ça va? T'as l'air épuisé.
Ah, je dors plus depuis des mois.
T'as rencontré quelqu'un?
Non, j'ai été cambriolée.
Ah, pardon.
Un cambriolage ne dure pas plus de 8 minutes. Ses conséquences, si. Protégez votre foyer et vos proches avec le système d'alarme Verisure qui détecte les cambriolages avant qu'ils ne se produisent. Appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verisure.fr.
France Inter.
On aime.
On aime.
On vous en parle.
France Inter, partenaire de la 48e édition des Rencontres d'Arles. Plongez au cœur de l'univers de Roger Balaine, revisitez l'œuvre de Dubuffet, assistez au coming-out photographique d'Audrey Tautou, traversez la Russie d'est en ouest sur les traces de Marie Beauvau et laissez-vous surprendre par les premières photographies de Joël Meyerowitz. Les Rencontres d'Arles, 40 expositions et 30 stages photos à découvrir à partir du 3 juillet. Un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr.
Le temps.
La météo avec Sarenza. Ballerines, sandales, baskets, des chaussures pour tous les temps, dans l'air du temps, sur l'appli Sarenza et sur
sarenza.com.
Et un grand soleil vient de rentrer dans le studio avec vous, Stéphanie Fromentin. Merci, le bonjour. Temps s'améliore franchement.
Les nuages sont tout de même encore nombreux dans la moitié ouest du pays, notamment de la Nouvelle-Aquitaine et du Midi-Pyrénées à la Bretagne en passant par les Pays de la Loire, percés par quelques éclaircies d'abord timides qui vont s'élargir dès ce matin au sud de la Loire. En Normandie, au centre, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, ces éclaircies sont plus franches dès ce matin, évoluent plus rapidement vers un temps ensoleillé, agrémenté de passages nuageux. Cet après-midi, le ciel reste chargé en Bretagne, Normandie et Hauts-de-France. France, mais sur toutes les autres régions. Le soleil redevient généreux et souvent dominant. C'est en Languedoc, Roussillon, PACA, sud de Rhône-Alpes et Corse que le ciel sera dégagé dès ce matin avec beaucoup de soleil.
Les températures sont à nouveau à la hausse.
On revient à des normales de saison. Vous vous levez avec 10 à 15 degrés du nord au sud, 15 à 19 dans le bassin méditerranéen. Cet après-midi, vous pourrez compter sur 18 à 22 degrés sous les nuages persistants des côtes de la Manche, 22 à 26 degrés en général ailleurs, 26 à 30 degrés dans le bassin méditerranéen. À noter que Mistral et Tramontagne souffle ce matin par rafale de 70 km à l'heure.
Merci Stéphanie Fromentin. Vous écoutez France Inter, il est 6h30. Avec vous Sébastien Logini, les informations, votre journal.
À la une ce matin, un président qui s'exprime devant les parlementaires à Versailles. C'est aujourd'hui à 15h exactement qu'Emmanuel Macron prononcera son discours sur l'état de la France, en quelque sorte discours attendu, mais très contesté par plusieurs députés qui y voient une volonté d'affaiblissement du Premier ministre. 300 000 Français appellent le président Macron à faire entrer Simone Veil au Panthéon. Résultat de plusieurs pétitions lancées la semaine dernière sur Internet, ces obsèques auront lieu mercredi. Au sommaire également, la France qui soutient le lancement d'une force militaire africaine pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel et les députés européens qui lancent le combat contre l'obsolescence programmée.
France Inter.
Ce sera donc l'image du jour. Emmanuel Macron en majesté face aux députés et sénateurs à Versailles. Le chef de l'État qui doit prononcer cet après-midi son fameux discours devant le Congrès, comme la loi le lui permet depuis 2008. Un discours très attendu, mais dont on ne sait rien à ce stade. Secret défense autour du président. Il s'agit de donner le cap de ce quinquennat, une sorte de discours sur l'état de la France, à l'image du discours de l'Union prononcé chaque année par le président américain. Un discours très controversé, boycotté même par plusieurs députés, certains pour dénoncer le coût de cette journée, entre 200 et 600 000 euros selon les estimations, d'autres comme les 17 députés de la France insoumise pour dénoncer l'hyper-présidentialisation d'Emmanuel Macron qui volerait la vedette à son Premier ministre qui lui doit délivrer son discours de politique générale mardi. Matignon et donc demain. Matignon dément toute forme de court-circuitage d'Édouard Philippe. Il n'empêche un président qui s'exprime avant le Premier ministre, Karine Bécart, c'est une situation inédite sous la Ve République.
Officiellement, un président de la République doit toujours parler avant son Premier ministre. C'est ce que tient absolument à rappeler, à quelques heures du Congrès, le plus proche conseiller d'Édouard Philippe. Maintenant, en réalité, Édouard Philippe est surtout parfaitement coincé. Pourquoi ? Parce que ce juppéiste qui a fait le choix de rompre avec son propre camp, les Républicains, pour devenir le nouveau locataire de Matignon, doit tout désormais à Emmanuel Macron. Autrement dit, difficile de lui dire non, difficile de l'empêcher de s'exprimer devant le Congrès 24 heures avant son discours de politique générale. Seulement, inévitablement, Édouard Philippe passe pour un simple exécutant. Alors soit le propos d'Emmanuel Macron cet après-midi est fondateur, précurseur de nouveaux bouleversements. Dans ce cas-là, tout le monde comprendra qu'il en ait gardé la paternité. Mais ce n'est pas du tout ce qui est annoncé. Soit c'est un discours sur son futur quinquennat et il n'apparaîtra que comme un président qui court-circuite son Premier ministre.
Karine Bécart, le discours d'Emmanuel Macron doit débuter à 15h. Avant cela, une minute de silence devrait être respectée en hommage à Simone Veil, information du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Simone Veil entrera-t-elle d'ailleurs au Panthéon ? Toujours pas de certitude à deux jours des obsèques nationales aux Invalides, mais le nombre de Français appelant le chef de l'État à prendre cette décision ne fait que croître. Près de 300 000 personnes ont signé deux pétitions sur change.org. Il y aura une réflexion à ce sujet, explique pour sa part Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. Pendant ce temps, sur Internet, le compteur des signatures s'affole. Benjamin Ali.
Parmi les pétitions mises en ligne, il y a donc celle lancée par Fatima El-Wazdi, présidente de l'association Politiquelle. Le texte publié sur le site change.org pose cette question. La patrie est-elle vraiment reconnaissante envers les grandes femmes de son histoire ? Pour des dizaines de milliers d'internautes, la réponse doit être oui. Ils ont cliqué, ils ont signé.
Notre objectif initial, c'était d'atteindre le cap des 5000 signatures.
Objectif largement dépassé, et cela en moins de 48 heures. Fatima El-Wazdi.
Maintenant, le cap des 150 000 est inscrit, donc bien sûr, nous aimerions beaucoup franchir cette nouvelle étape. On se dit que c'est pas en vain et peut-être qu'on aura une réponse rapidement, même si voilà, la volonté de Simone Veil, c'est d'être inhumée aux côtés de son mari, qui est aussi une chaire du Montparnasse. Nous aimerions que le symbole de son nom il soit au Panthéon, donc avec une plaque, avec son nom, c'est ce qu'on veut. Il est super important de consolider son héritage, de le mettre au Panthéon et de le rendre éternel et aux grandes dames. La patrie doit être éternellement reconnaissante et des grandes dames comme Simone Veil, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de la République française.
Et elles sont rares aussi, celles qui ont rejoint le Panthéon, Marie Curie, Sophie Berthelot, les résistantes Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonioz. Simone Veil serait la cinquième femme seulement à se faire une place dans le tombeau dit des grands hommes.
Benjamin Illy, et puis sachez que seul le président de la République peut prendre cette décision. Il faut pour cela l'avis favorable de la famille.
Emmanuel Macron qui s'est engagé à ramener l'otage français Sophie Petronin-Senesso.
Une vidéo la montre aux côtés de cinq autres otages. Première preuve de vie depuis son enlèvement au Mali en décembre dernier. Le président français s'est engagé à la retrouver tout en s'attaquant frontalement aux ravisseurs. Ils ne sont rien, dit-il, ce sont des terroristes, des voyous, des assassins, a lancé Emmanuel Macron qui était hier donc au Mali pour acter le lancement d'une force anti-djihadiste africaine dans le Sahel, avec autour de lui les représentants du Mali, du Tchad, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger. Chacun a promis hier de financer cette force militaire à hauteur de 10 millions d'euros, très loin toutefois de ce qui est nécessaire. Une force qui n'existe donc que sur le papier, mais que Paris espère bien voir se concrétiser un jour. Hervé Toutain a suivi le chef de l'État lors de son déplacement.
Dans la constitution de cette force, la France est à la manœuvre. La décision a été prise en février dernier et dès son élection, Emmanuel Macron a appuyé la demande des pays du Sahel à l'ONU, aboutissant dans un premier temps à une reconnaissance de la communauté internationale. Et puis, le chef de l'État a pris son téléphone pour rallier les bailleurs. Si les États-Unis restent pour le moment réticents, Emmanuel Macron espère beaucoup convaincre l'Allemagne d'Angela Merkel de donner plus lors du prochain Conseil des ministres franco-allemand. Ce sera le 13 juillet. Ici à Bamako, le chef de l'État a signé l'engagement renouvelé des forces françaises Barkhane auprès des armées sahéliennes. Un rôle, c'est vrai qu'elles jouent déjà, formation, logistique, armement et renseignement, mais qui devrait monter rapidement en puissance, contrôle des frontières et multiplication des opérations conjointes contre les groupes djihadistes. Maître d'œuvre, Emmanuel Macron s'est engagé à ce que cette force soit opérationnelle dès l'automne prochain. Je veux refonder les relations entre la France et l'Afrique, a conclu le chef de l'État. Bamako, Hervé Toutain, France Inter.
Comment faire pour aider l'Italie à faire face à la crise migratoire? Les ministres de l'Intérieur italien, français et allemand se sont réunis hier soir à Paris pour tenter de trouver une approche coordonnée. 80 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. Rome menace de bloquer l'entrée de ses ports. Alors pour alléger la pression, l'Italie demande notamment que les bateaux battant en pavillon étranger, français ou espagnol par exemple, et qui secourent les migrants en Méditerranée, eh bien acheminent ces migrants qu'ils transportent vers leur port. On en reparle dans le journal de 8 heures. Encore des tensions en mer de Chine. Un navire américain est passé à proximité d'une île occupée par Pékin. Une sérieuse provocation politique et militaire selon les Chinois qui ont envoyé des bateaux militaires et des avions de chasse dans la zone. Donald Trump doit appeler aujourd'hui son homologue chinois. Nouvelle étape aujourd'hui dans la campagne électorale en Allemagne. Angela Merkel présente son programme à 3 mois des législatives de septembre prochain. Elle a aujourd'hui 15 points d'avance sur les sociaux-démocrates du SPD.
Va-t-on voir bientôt une directive européenne contre l'obsolescence programmée des objets du quotidien?
Oui, nos portables et autres machines à laver, qu'il est souvent plus facile de remplacer que de réparer, eh bien les députés européens, en tout cas, tentent de lancer le combat contre ce gaspillage et cette pollution avec un rapport qui sera discuté aujourd'hui au Parlement de Strasbourg, le rapport de l'eurodéputé Pascal Durand. Il estime à plus de 10 000 le nombre d'emplois potentiels générés par la réparation ou le réemploi des produits de la vie courante. Anne-Laure Barral a lu ce rapport.
Si on réparait rien que 10 000 tonnes de vieux réfrigérateurs, téléphones ou sèche-cheveux, cela créerait au moins 296 emplois en Europe, sans parler des matières premières comme l'or, le cuivre ou le zinc que l'on n'aurait pas à extraire de notre sous-sol. Le recyclage, c'est bien, mais ce rapport parle aussi du réemploi. Quand par exemple une école utilise les anciens ordinateurs d'une entreprise, l'Europe pourrait créer 10 500 emplois non délocalisables si elle généralisait cette pratique, et cela économiserait des tonnes de gaz à effet de serre et des millions de mètres cubes d'eau. Ce rapport détaille les bonnes pratiques, comme en Suède, où des mesures fiscales permettent aux consommateurs aujourd'hui de déduire de leurs impôts le coût d'une réparation d'électroménager. Une réparation moins taxée d'ailleurs que d'autres services. Il faut dire que cela coûte encore moins cher de remplacer son téléphone par un neuf plutôt que de le faire réparer en France. Parmi les principales préconisations de ce rapport, l'interdiction de produits dont les pièces essentielles sont tellement soudées entre elles qu'on ne peut pas les remplacer, et aussi l'interdiction de l'obsolescence programmée des objets.
Anne-Laure Barral, le grand retour de Total en Iran, 2 ans à peine après la levée de l'embargo, la compagnie pétrolière française signe aujourd'hui un contrat à près de 5 milliards de dollars. Total va exploiter un immense champ gazier avec ses associés chinois et iraniens. Une fusillade juste devant une mosquée dans le Vaucluse. C'est arrivé hier soir vers 22h30 à Avignon. 7 blessés au total, dont une fillette. Les enquêteurs parlent d'un règlement de compte et écartent l'hypothèse terroriste. On termine avec du sport. Toujours pas de victoire française sur le Tour de France. Attendu, Arnaud Démare n'a accroché hier que la 2e place du sprint, battue par l'Allemand Marcel Kittel. Le Gallois Geraint Thomas reste en jaune.
C'était le journal de Sébastien Legénie. La route avec vous, Laurent Borde, un accident en Isère.
Oui, un accident qui s'est produit sur la 41, l'axe qui relie Grenoble à Genève, en direction de Grenoble, au niveau du village de la Terrasse. Et vous l'avez dit, en Isère, une voie de circulation est neutralisée. Et puis en région parisienne, il y a un accident impliquant 3 véhicules qui s'est produit sur la 10 entre Paris et Bordeaux, en direction de Paris au niveau de Forges-les-Bains. C'est dans l'Essonne. La voie de droite est neutralisée.
Le produit intérieur brut représente la somme des valeurs ajoutées et intègre la production marchande évaluée au prix de marché, ainsi que la production non marchande des administrations mesurées par les coûts de production à défaut de prix de marché des services non marchands.
Si vous retenez ça, alors vous n'aurez aucun mal à retenir qu'au CIC après le bac, on offre 160 € aux mentions très bien, 80 aux mentions bien et 40 aux mentions assez bien. Il vous suffit d'ouvrir un livret d'épargne dans l'une de nos agences avant le 30 septembre. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et son pavillon flottant. Cette citadine produite en France combine merveilleusement élégance et technologie.
DS Automobile.
Jusqu'au 31 juillet, pour l'achat de DS3 Connected Chic, DS Automobile reprend votre véhicule 3 000 € au-dessus de sa valeur. Détail de l'offre sur dsautomobile.fr.
France Inter. On aime. On aime. On vous en parle.
France Inter, partenaire du festival Fnac Live Paris. Du 6 au 8 juillet, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Fnac Live est pendant 3 jours l'événement musical gratuit de l'été. Avec Julien Doré, Benjamin Biolay, Camille, Julien Clerc, Calypso Rose, Juliette Armanet, Albin de la Simone, The Blaze. Festival Fnac Live Paris, du 6 au 8 juillet. Renseignements sur franceinter.fr.
6h41 sur, presque 6h42 sur France Inter. C'est l'heure du carrefour avec à suivre un œil sur la presse internationale. Nous irons à Berlin avec Cyril Sauvageau, le correspondant de France Inter. Un petit peu plus de rock'n'roll d'ici 7h pour bien commencer la journée avec le feuilleton musical Magic Elvis qui nous tiendra en haleine tout l'été. Et puis Frédéric Sigrist, il passera nous dire beaucoup de choses sur son blockbuster. C'est son émission estivale. C'est à partir de 11h sur France Inter. Mais d'abord avec vous, les histoires politiques, Yannick Halimi. Il a le verbe haut, la critique facile. Jean-Luc Mélenchon a fait son entrée à l'Assemblée nationale. Il continuera à être le tribun qu'il a été pendant la présidentielle. Mais pas seulement, vous nous dites, Yannick, qu'il poursuit aussi un but bien précis.
Oui, effectivement. Alors tout d'abord, pas question de quitter ses habits d'opposant numéro 1. Il restera le ténor de l'opposition, son lyrisme et ses effets de manche, compensant la minceur de son groupe à l'Assemblée, 19 députés contre une trentaine pour le PS et une centaine pour les Républicains. Il n'ira pas non plus au congrès de Versailles cet après-midi, il préfère manifester ce soir, place de la République. Ça, c'est le Mélenchon, l'insoumis, l'homme aux colères irruptives, celle qui depuis plusieurs années font sa réputation, mais aussi sa légende. Car Mélenchon, le porte-parole des sans-culottes, des sans-cravates, des sans-dents et des sans-voix, est aussi un fin politique au sens de la stratégie affûtée. Un de ses proches me confiait « Jean-Luc a une ligne et un objectif dont il ne s'écarte plus, c'est faire reculer encore et toujours le Front National ».
Mais ça a toujours été son but.
Oui, mais sa priorité lors de la présidentielle, c'était d'abord tuer le Parti Socialiste. On voit qu'il y est presque arrivé. Contre le parti de Marine Le Pen, sa tactique tenait plus du discours au fulminate que de la stratégie politique ou alors d'une stratégie qui s'est avérée peu payante. Nous avons tiré les leçons de la présidentielle de 2012, m'explique un insoumis de l'entourage de Mélenchon. On avait appelé à voter pour François Hollande entre les deux tours, et de cela notre électorat le plus populaire, celui que nous avons en commun avec le Front National, nous l'a reproché pendant tout le quinquennat. Voilà pourquoi, comme nous étions sûrs que Marine Le Pen ne l'emporterait pas, nous n'avons pas appelé cette fois-ci à voter pour Macron.
Et que va faire désormais Jean-Luc Mélenchon ?
Eh bien, il y a une autre erreur de 2012 que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas reproduire, c'est laisser retomber le soufflet de la présidentielle. On a réussi à reprendre une partie du vote ouvrier pendant les législatives, me susurre un insoumis. Il faut maintenant que nous structurions comme un vrai parti, ce que nous n'avions pas fait après 2012. Il faut, poursuit cet insoumis, que nous construisions un parti capable d'être présent partout et en permanence sur les territoires, capable de convaincre l'électorat frontiste avec de vrais arguments, qui ne soient pas seulement l'antiracisme. Alors, pour cela, le mouvement aura bien besoin des dotations publiques auxquelles il a droit, maintenant qu'il compte des députés à l'Assemblée. Deux forces d'opposition, on l'aura compris, Jean-Luc Mélenchon a bien l'intention de devenir une force de mobilisation.
Merci Jeannick Halimi. Qu'est-ce qu'on trouve dans les pages politiques du Parisien aujourd'hui en France ce matin ?
Eh bien, on trouve tous les petits secrets de fabrication et de déclaration, j'allais dire, du discours de Macron pendant le congrès de Versailles.
Et je rappelle quand même la une du Parisien ce matin. Une question quand même qui n'est pas du tout une question politique. Vacances, et si vous partiez sans vos enfants ? Le Parisien, donc, il constate que de plus en plus de Français vont se ressourcer dans des clubs ou des hôtels qui sont réservés aux adultes. Alors, un grand dossier, donc, que signifie cette nouvelle tendance ? C'est à découvrir dans Le Parisien, en plus, bien sûr, des pages politiques. La revue de presse internationale ce matin avec vous, Cyril Sauvageau. Vous êtes notre correspondant à Berlin. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors la une chez vous, Cyril, un sommet du G20 à haut risque cette semaine à Hambourg.
Un G20 en plein centre-ville, dans la deuxième plus grande agglomération d'Allemagne, un vrai casse-tête en perspective pour les forces de l'ordre. Hambourg remontée à bloc contre ce G20 dans les cafés du Schanzenviertel, le quartier alternatif, bastion de l'extrême-gauche. On vend depuis plusieurs mois un cocktail dont les bénéfices servent à financer la résistance. Des manifestations sont prévues toute la semaine. La première a réuni 10 000 personnes hier dans une ambiance plutôt pacifique. Mais jeudi, le mouvement de gauche radicale Welcome to Hell, bienvenue en enfer, attend plusieurs milliers de manifestants venus de toute l'Europe et prêts à en découdre avec la police. Selon le journal Welt am Sonntag, l'Office fédéral de police criminelle surveille de très près la sphère de gauche radicale et redoute des actions spectaculaires, incendies, sabotage, occupation du port d'Hambourg ou encore de la télévision publique régionale. 1200 agents seront déployés pour l'occasion, en plus des 20 000 policiers régionaux et fédéraux chargés d'assurer la sécurité du G20.
Alors Cyril, il n'y a pas que l'enjeu sécuritaire, hein. Les autorités allemandes redoutent aussi l'échec diplomatique de ce sommet.
C'est à lire dans le Spiegel de cette semaine l'inquiétude d'Angela Merkel qui craint le pire au moment de retrouver Donald Trump à Hambourg. Selon l'hebdomadaire, la chancelière a dépêché à Washington son négociateur en chef pour qu'il aille tâter le terrain, voir si les Américains sont encore prêts au compromis. Car après s'être retiré de l'accord climat de Paris, Donald Trump ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. La lutte contre les paradis fiscaux serait menacée, ainsi que la régulation des marchés financiers. Le G20 parviendra-t-il à une déclaration commune ? Rien n'est moins sûr et toute la difficulté sera de tenir un discours de fermeté face à Donald Trump sans pour autant isoler les États-Unis. Ajoutez à cela les dossiers brûlants à discuter avec le président turc Recep Erdogan ou encore avec Vladimir Poutine. Et ce G20 aura bien mérité d'être effectivement rebaptisé. Bienvenue en enfer.
Alors un tout autre sujet, Cyril. Elle a osé braver les extrémistes de l'islam. C'est la fondatrice d'une mosquée libérale à Berlin et elle fait désormais l'objet de menaces de mort.
Et oui, la presse allemande et internationale avait largement relayé mi-juin l'ouverture de cette mosquée d'un nouveau genre, un lieu de culte ouvert à tous, hommes et femmes ensemble, homo et transsexuels, sunnites et chiites, mais interdit au niqab et au tchador. À l'origine du projet, l'avocate d'origine berlinoise, d'origine turque, Seyran Ates, militante des droits des femmes, elle s'attendait à ne pas faire que des heureux, mais c'est pire que prévu. D'après le journal berlinois Der Tagesspiegel, sa protection a dû être renforcée après de nombreuses menaces de mort, une centaine de messages de haine, notamment sur les réseaux sociaux. Seyran Ates est présentée comme le diable en personne qui doit brûler en enfer. Le maire de Berlin, Michael Müller, dénonce des menaces inacceptables. Il appelle les autorités musulmanes à prendre position. L'avocate en a connu d'autres. Elle a échappé à un attentat pour la première fois dans les années 80, mais elle affirme n'avoir jamais été autant menacée qu'aujourd'hui. Elle est désormais sous surveillance policière 24 heures sur 24.
Merci Cyril Sauvageau en direct de Berlin.
France Inter. Le 6-7.
Un parfum d'Amérique qui va nous faire swinguer tout l'été et tous les matins sur France Inter. Le 16 août prochain, c'est une date qui marquera les 40 ans de la mort d'Elvis Presley. Et à cette occasion, donc, France Inter retrace la légende du King avec Magic Elvis, le feuilleton des radios francophones publiques consacré, bien sûr, à Elvis Presley. Ce matin, pour nous faire revivre cette légende, voyage sur les terres du chanteur et bienvenue, bien sûr, à Graceland, 37 miles 64 Elvis Presley Boulevard, c'est à Memphis, la mythique propriété du King. Philippe Robin joue les guides.
L'avion commence sa descente sur Memphis.
par le hublot, la vue est splendide. On peut voir l'immense Mississippi qui marque la limite entre le Tennessee et l'Arkansas, et puis cette ville de Memphis qui, au propre comme au figuré, rime avec Elvis. Je sens une émotion bizarre qui commence à m'envahir. Un sentiment étrange que d'ailleurs tous les fans du King sont venus chercher ici depuis 1977, cette impression curieuse d'arriver sur ce territoire, son territoire, sur lequel tout a commencé.
Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party, trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall.
Le taxi que j'emprunte roule vers le sud et il finit par déboucher sur cette route qui indique le but de mon voyage, Elvis Presley Boulevard. Impossible de manquer l'endroit, il y a de chaque côté de la route une succession de boutiques, de musées, de restaurants, d'hôtels à l'effigie du King et la foule de visiteurs le long du trottoir, le nombre de voitures sur les parkings me disent que je viens de débarquer dans l'un des sites les plus touristiques des États-Unis. Je me demande bien comment cet endroit pouvait être en 1957, quand Elvis a acheté cette maison nommée Graceland.
Okay, my man, you're the man, Craig. I'm George Klein, live at Graceland, Sirius 13 Elvis Radio. This is for everybody up in Portland, Maine, checking us out today.
Il est 17h à Memphis. Je vais à la rencontre de George Klein, un ami d'enfance de Presley. Il termine l'émission qu'il anime aujourd'hui encore sur cette radio entièrement dédiée à Elvis. George a tout vécu avec Elvis. Ils étaient copains d'école dès l'âge de 8 ans et il lui est resté fidèle jusqu'au bout. D'ailleurs, il était là quand Elvis s'est installé à Graceland.
Elvis a acheté Graceland pour $100,000. Il a ajouté $50,000 pour la rénover. Nous sommes partis tourner le film Jealous Rock à Hollywood, et quand nous sommes revenus, les travaux étaient finis. Et Elvis en était très content.
Un autre témoin, Patsy Anderson, 22 ans au service d'Elvis Presley Enterprise. Elle aussi connaît bien l'histoire de Graceland.
Quand Elvis s'est installé ici, c'était la campagne. On était sur l'autoroute 51 qui mène vers le sud. Si les fans voyaient Elvis dehors, sur un cheval ou au volant d'un kart, ils s'arrêtaient et laissaient leur voiture au milieu de la route. Et la police distribuait des amendes. Alors Elvis a acheté le terrain d'en face pour que les fans se garent et passent la nuit là s'ils le voulaient.
Et en 1957, pendant que l'on décorait sa nouvelle maison à son goût, Elvis était à Hollywood pour jouer le rôle de Vince Everett dans son troisième film, Jailhouse Rock, le rock du bagne.
Magic Elvis, série signée donc Philippe Robin, c'est tout l'été sur France Inter avec les radios francophones publiques.
Bah pourquoi tu veux déménager? Vous venez d'arriver. Je croyais que tu l'adorais cette maison.
Ouais, mais on peut plus y vivre.
Elle est hantée ou quoi?
Non, on a été cambriolés.
Un cambriolage ne dure pas plus de 8 minutes. Ses conséquences, si.
Protégez votre foyer et vos proches avec le système d'alarme Verisure qui détecte les cambriolages avant qu'ils ne se produisent. Appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verisure.fr.
Partageons le Tour avec Radio France.
Cet été, pour la première fois depuis 25 ans, le Tour traverse les 5 massifs montagneux de l'Hexagone.
Les Vosges, puis le Jura, les Pyrénées et le Massif central, et pour finir les Alpes. 23 ascensions au total, avec un point culminant à 2642 mètres pour le passage au col du Galibier. Un vrai concours d'escalade.
Le Tour de France avec Vittel, au officiel du Tour de France.
Le Tour de France du 1er au 23 juillet avec Radio France.
Le temps.
La météo avec Sarenza. Changez de chaussures comme de saison avec 700 marques mode pour toute la famille. Sur l'appli Sarenza et sur
sarenza.com.
Le temps se dégage doucement mais sûrement, Stéphanie Fromentin.
Le soleil a convoqué ce matin ses rayons. Il a installé arbitrairement des conditions anticycloniques pour au moins 3 jours. La perturbation n'a pas pu s'exprimer plus longtemps. Paris a été libéré. Un congrès solaire est donc en préparation, laissant un ciel encore ce matin très nuageux sur la Bretagne et la Normandie, comme du sud-ouest aux frontières belges, avec quelques brunes localisées dans le nord-est. Une légère bande d'éclaircies insoumises refuse d'attendre cet après-midi et font de petites trouées dès ce matin. Des côtes vendéennes au Nord-Pas-de-Calais, il n'y a que le sud-est qui cède immédiatement la place à ce soleil jupitérien. Il faut dire que Mistral et Tramontane l'aident bien dans cette domination en dégageant les nuages à coups de rafale de 70 km à l'heure. Cet après-midi, le ciel se fait une raison. Il fera beau avec peu de nuages en général, très beau même dans le sud-est, exception faite d'une zone ombrageuse qui résiste encore par principe des côtes bretonnes au Nord-Pas-de-Calais.
Les températures sont aussi en hausse.
Là encore, la convocation est sans appel, c'est un retour au normal de saison pour tout le monde. Pas de discussion possible, il fait 10 à 15 degrés du nord au sud, 22 à 26 degrés en général, 13 à Paris ce matin, 25 cet après-midi, 13 à Versailles ce matin, seulement 23 cet après-midi.
Merci Stéphanie Fromentin, Frédéric Sigris, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Alors 11h, votre blockbuster du jour, dites-nous tout.
Alors aujourd'hui, avec ma comparse Sophie Hoffman qui se trouve à mes côtés ce matin, on va vous parler d'une série que tout le monde va reconnaître, et d'ailleurs la preuve par ce micro-trottoir, écoutez.
Elles furent les initiales les plus célèbres de la télévision. JR est mort, Larry Hagman avait 81 ans. Il restera comme la star de la série Dallas.
Ouais, ça m'évoque un truc que j'ai jamais regardé.
Ton univers pitoyable.
La gloire, la richesse.
Tout.
La trahison, la vengeance.
Gros symbole de la société de consommation de masse, mais pour moi, c'est des souvenirs d'enfance.
L'homme d'affaires amoral et séducteur sur fond de guerre du pétrole. Détestable et pourtant ultra populaire.
Non, il n'est pas dans ce registre-là, non.
Dallas, c'était les feux de l'amour, mais en version western.
Qu'est-ce que tu as dit?
Ça remonte à loin quand même, Dallas.
C'était des films que regardaient mes grands-parents.
Mais absolument pas.
Il n'y avait pas vraiment de personnage préféré, parce que pour moi, ils étaient tous plus ou moins antipathiques. Il y avait le fils, peut-être, mais je me souviens plus.
Mon fils.
Je sais même pas, c'est les années 90 au moins, Dallas.
Et 20 ans après l'arrêt de la série, tout le monde s'en souvient.
C'était un truc avec des gens qui gagnaient beaucoup d'argent et qui galéraient un peu dans la vie, je pense.
L'équipe de basket, des Mavericks.
Le pétrole, les gratte-ciels.
JR et Wing et Swellen.
Les vaches.
Ça m'évoque un peu quelque chose du passé.
Le whisky, le bourbon.
Les embrouilles de famille.
L'idée qu'on se faisait de l'Amérique à l'époque correspondait bien au scénario. Maintenant, c'est fini. Maintenant, les États-Unis, c'est Trump.
And we will make America great again.
Frédéric, pourquoi avoir démarré avec Dallas ?
Eh bien, d'abord, avant toute chose, parce qu'on a des auditeurs âgés, et il faut leur faire plaisir aussi de temps en temps, parce que si j'avais commencé avec Game of Thrones, personne ne m'aurait suivi.
Vous terminez quand même avec Donald Trump. Hein, dans le...
Mais oui, parce qu'en fait, justement, au contraire, je trouve que Dallas a jamais été autant d'actualité, c'est-à-dire que une famille richissime, obsédée par le pétrole, manipulateur, misogyne, xénophobe, JR, cette figure amorale comme ça, avec une femme qui le déteste, quand on voit Melania Trump qui refuse de prendre la main de Donald Trump en public, on peut pas s'empêcher de se dire mais tiens, est-ce que j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu cette image? Et en l'occurrence, on l'a vu dans Dallas. Et aujourd'hui, l'Amérique de Trump, c'est l'Amérique de Dallas. C'est pour ça qu'il faut en parler.
Donald Trump avec un chapeau, finalement, c'est JR.
Exactement, c'est JR.
Blockbuster de Frédéric Sigris, c'est donc à retrouver sur France Inter. C'est tous les jours du lundi au vendredi et c'est à 11h. C'est la fin de ce 6-7 et place au 7-9. Bonjour Marc Fauvel.
Bonjour Stéphane, ravi de vous retrouver pour ce 7-9 effectivement qui débute à l'instant. Il est 7h.